Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Nigeria, 76 des 110 écolières enlevées le 19 février par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram à Dapchi, dans le nord-est du pays, ont été ramenés ce mercredi matin à leur école par le ravisseur, selon le gouvernement nigérian. Les efforts du président Muhammadu Buhari, épaulés par les services de sécurité pour amener les filles enlevées à Dapchi, ont porté leurs fruits, a déclaré le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed. Les militants de Boko Haram, affiliés au groupe État islamique, avaient mené le 19 février un raid sur le pensionnat de l'école pour filles de Dapchi, dans l'État de Yobe, et étaient repartis avec 110 jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Au Mali, report de la tournée du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga dans des localités du centre et du nord du pays, dont Kidal, la capitale des Ifogas dans le Sahara malien. La coordination des mouvements de l'Azawad CMA, l'ex-rébellion Touareg, a refusé de le recevoir. Ce déplacement qui devait démarrer lundi allait être une première depuis 2014, date d'une lourde défaite de l'armée malienne face aux rebelles lors d'une visite du chef du gouvernement de l'époque, Moussa Mara. De Bamako, le compte-rendu de Kassim Traoré.
Kidal est loin de Bamako, mais devient encore plus loin avec les conditions de la CMA, qui, à chaque visite d'un premier ministre, pose ses conditions. Oumar Tatamli avait renoncé à son voyage. Moussa Mara y est allé, avec des conséquences fatales pour les civils et militaires maliens. Soumaïlou Boubey Maïga veut se rendre dans la capitale des Ifogas. Le 19 mars dernier était la date indiquée. Elle a été reportée à une date ultérieure. Il semble aussi qu'il y a un déficit de communication entre la branche politique et militaire de la CMA. C'est pour cela que certains responsables des ex-rebelles sont en tournée dans la région de Kidal pour visiter leur base, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015 a repris ce mercredi à Ouagadougou. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier la requête des avocats de la défense qui dénonçait la nomination des juges du tribunal militaire par décret. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et les autres prévenus sont poursuivis dans le cadre du putsch manqué. Yacouba Ouédraogo a joint Ousmane Paré, rédacteur en chef de la radio Omega à Ouagadougou.
Le problème a été réglé donc mardi dans l'après-midi par le Conseil constitutionnel. Donc cette décision, ça dit tout simplement qu'il n'appartient pas au Conseil supérieur de la magistrature de nommer des magistrats au niveau donc du tribunal militaire. Le tribunal militaire étant une juridiction d'exception.
Le procès reprend donc ce mercredi. Est-ce qu'il y a des chances que tout se passe normalement et qu'il n'y ait pas à nouveau un renvoi?
Ça reste toujours un procès. Donc chacune des deux parties vient avec des arguments et c'est pas le seul reproche qui était fait donc pour la reprise du procès. Il y a même la dénomination du procès. Ça, c'est un aspect qui n'a pas définitivement été réglé. Parce qu'au niveau de la défense, on demande aussi de clarifier devant quelle juridiction les différents prévenus doivent comparaître. Parce qu'au niveau du décret de nomination donc des membres du tribunal, la chambre en tout cas qui est désignée donc au niveau du décret n'est pas celle devant laquelle les différents prévenus doivent comparaître. On attendra tout simplement de voir ce que la réponse qui sera donnée donc à l'ouverture du procès. En dehors de cela, donc les avocats aussi disent qu'il y a des éléments qui jusqu'à présent n'ont pas été pris en compte, donc certaines de leurs revendications qui n'ont pas été prises en compte. Donc on attendra tout simplement de voir aussi bien au niveau de la défense que de la partie civile, les exceptions qui pourraient une fois de plus être soulevées, qui pourraient d'une manière ou d'une autre aussi avoir un impact sur le bon déroulement du procès.
Les avocats des accusés disent qu'apparemment tout est mis en œuvre pour que leurs clients soient condamné. Quelle est l'impression des Ouagalais là-dessus?
C'est une population qui est profondément divisée. De ce fait, il y en a qui disent clairement qu'on n'a pas besoin de tourner en rond. Il y a des gens qui ont assumé leur responsabilité dans le procès, donc il faut aller vite au procès et être jugé. Il y en a qui ne le disent même pas et disent de toute façon, les responsables sont connus, il faut leur infliger des sanctions qui seraient des plus lourdes, donc afin de satisfaire la population. Alors que du côté naturellement donc, de la défense, on se dit attention, c'est vrai qu'il y en a qui ont porté la responsabilité donc, de ce qui est arrivé. Mais il y a des gens aussi qui sont poursuivis et il reste aussi à déterminer leurs véritables implications dans le procès. Le journal Dindéré, lui, il a retenu les faits, mais certains de ses avocats aussi disent que non, il n'est pas forcément le seul. Lui, c'est vrai qu'il a assumé la responsabilité, mais ce sont des gens qui ont fait des coups d'État, qui sont venus le voir pour le mettre devant le fait accompli. Et lui aussi, il avait contacté d'autres personnes. Donc, vous voyez un peu la complexité de la situation.
Notre confrère Ousmane Paré joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Toujours en Afrique de l'Ouest, en Gambie, arrestation d'une dizaine d'agents des services de renseignement pour le meurtre en 2016 de l'opposant Solo Sandeng sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Les suspects ont tous travaillé dans la défunte Agence nationale de renseignement, dont le chef Yankuba Badji est également jugé pour ce meurtre. Le point avec Eddie Isango.
Deux de ces agents ont été libérés sous caution et huit sont toujours en détention, selon le porte-parole de la police. 13 témoins ont été entendus au procès de Yankuba Badji et ses huit coprévenus, très suivis à chacune de ses audiences. Mais les procès a connu de nombreux retards et ajournements depuis son ouverture le 20 mars 2017. Les accusés doivent répondre des 25 chefs d'inculpation, dont ceux de meurtre et de torture. Solo Sandeng, un dirigeant du Parti démocrate uni, principal parti d'opposition à Yahya Jammeh, est décédé en détention. Il avait été arrêté le 14 avril 2016 avec plusieurs autres personnes après un rassemblement pour réclamer des réformes politiques.
Afrique centrale maintenant, au Cameroun, un ingénieur tunisien tué après son enlèvement en zone anglophone, le premier étranger à perdre la vie dans cette région dans le cadre des violences en cours depuis plusieurs mois. La victime faisait partie de quatre personnes kidnappées le 15 mars parce que les autorités camerounaises appellent des séparatistes armés. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le porte-parole du gouvernement camerounais a annoncé la découverte du corps de Khaled Tinsa, ingénieur tunisien assassiné par ses ravisseurs. Sa dépouille a été découverte au cours de l'opération spéciale de libération de quatre otages menée par les forces de défense et de sécurité. Opération au cours de laquelle le deuxième ingénieur tunisien a été libéré, ainsi que deux techniciens camerounais, tous enlevés le 15 mars par des hommes armés sur la route Koumba-Isangene, à plus de 245 km de Yaoundé. Les otages, qui travaillent pour une société tunisienne, étaient retenus dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du Cameroun. Après leur libération, les trois survivants sont arrivés à Yaoundé à bord d'un hélicoptère de l'armée camerounaise. Les ravisseurs menaçaient d'exécuter tous les otages si une rançon ne leur avait pas été versé au plus tard ce mercredi. Cinq membres du groupe des ravisseurs ont été neutralisés selon le gouvernement camerounais. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En RDC, la cour militaire de Bukavu dans la province du Sud Kivu a condamné à mort l'ex-chef anticorruption de cette province de l'est du pays. Le condamné a été transféré immédiatement à Kinshasa. Au total, il y a eu 26 condamnations et 6 acquittements, a déclaré le lieutenant-colonel Nsa Obal, président de la cour militaire du Sud Kivu. Abbas Kanyonga et 13 personnes de sa bande ont été condamnées à la peine de mort. Les autres écopent de peine allant de 5 à 20 ans de prison, a-t-il ajouté. Abbas Kanyonga est l'ancien coordonnateur de la cellule antifraude du Sud Kivu et il a été condamné pour rébellion, assassinat et détention illégale de munitions de guerre. Nous passons maintenant au conflit en Syrie. Au moins 62 combattants des forces loyales au régime du président Bachar al-Assad ont été tués lors d'une opération du groupe État islamique qui a permis aux djihadistes de prendre lundi le contrôle d'un quartier sud de la capitale Damas. Et toujours dans la région de la capitale, au moins 35 personnes ont été tuées hier par un tir de roquette des rebelles qui ont ciblé un marché dans la banlieue de la capitale. Yacouba Oudraogo.
La roquette est tombée sur un marché près d'un point de contrôle de l'armée dans la banlieue de Damas. On a été pris de terreur avec la puissance de l'explosion, a affirmé Anya, infirmière et habitante de la localité. Dans un bandeau, la télévision d'État a accusé les rebelles d'avoir tiré cette roquette. L'agence officielle Sanaa a avancé un bilan de 35 morts. C'est l'attaque la plus meurtrière qu'a connue la capitale syrienne ces derniers mois. Apparemment, les rebelles ont réagi en représailles au bombardement intensif du régime sur la Ghouta orientale. L'armée syrienne poursuit depuis le 18 février son offensive contre la dernière enclave rebelle aux portes de Damas. Ces frappes ont tué plus de 1450 civils, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, un homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'explosions au Texas, notamment dans la ville d'Austin, s'est fait exploser ce mercredi matin dans sa voiture au moment où il allait être interpellé.